mumbled back to me.
Il est maintenant temps en France de sévir.
Des Français interrogés se déclarent favorables au principe de tolérance zéro.
Chercher les délinquants là où ils se trouvent et qu'on leur mène la guerre aux délinquants et aux voyous.
Ce cinquième numéro d'appel d'urgence est maintenant terminé. Attention à vos poches et à vos sacs dans le métro. Merci. Bonsoir.
Come on.
Toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89.4 FM, la radio libre de la Fédération Anarchiste. Et pour nous écouter partout ailleurs, c'est sur le site de la radio www.radio-libertaire.net pour eh bien, nous écouter en direct, retrouver podcast de toutes vos émissions préférées, retrouver l'agenda aussi de celle-ci et d'autres informations aussi sur le site, donc www.radio-libertaire.org. 13h passées de 8 minutes, c'est l'heure de votre émission. Pardon, c'est là que ça se passe. Votre agenda militant de la semaine pour se voir, se discuter, se rencontrer. Débattre et lutter ensemble, et puis de traitement d'actu sous un prisme libertaire. Dans le studio avec moi, il n'y aura que Ramon.
Bonjour.
Et voilà, on aura un peu d'agenda, parce qu'il y a quand même, eh bien, malgré cette canicule, qui touche une très grande partie du territoire métropolitain, avec des températures quand même assez, assez extrêmes pour nos contrées. Et il y a quand même quelques petits rendez-vous qu'on aura à vous transmettre. Et puis on fera toujours quelques points d'actu sur nos thématiques que vous connaissez bien maintenant. Ramon, est-ce que tu as déjà un premier point à aborder ?
Eh bien, il y a déjà un premier point ce soir, ou plutôt en fin d'après-midi. comme tous les lundis d'ailleurs, de 16h à 18h, la commune libre d'Aligre tient sa permanence précarité pour vous aider, en cas de besoin, à faire face aux administrations telles que la CAF, pour le RSA, France Travail, etc. Une permanence précarité qui vous aide donc à rompre l'isolement tout en défendant vos droits sociaux. Cette permanence est ouverte, comme je vous ai dit, tous les lundis, de 16h à 18h. Je vous donne l'adresse, 3 rue d'Aligre, dans le 12e arrondissement de Paris. C'est tout près de la gare de Lyon.
Oui, c'est pas loin de la gare de Lyon, en effet, pour donner un repère un peu plus concret pour les personnes qui viennent à Paris. Et aussi, bah, c'est sur la place d'Aligre, là où il y a le marché d'Aligre, évidemment.
Voilà, hein, c'est ça.
Plusieurs fois par semaine pour cette permanence, du coup, tous les lundis pour le moment. Alors peut-être qu'elle s'arrêtera pendant l'été, on aura l'occasion peut-être de vous en faire part si on a l'information. Voilà pour un premier rendez-vous. Vous avez aussi, par exemple, à partir de 19h, les rendez-vous, là, maintenant, qui sont institués devant les ministères de la Justice. En tout cas, devant le ministère de la Justice pour Paris, c'est la place Vendôme, et partout ailleurs, devant les tribunaux judiciaires par rapport à l'affaire... j'ai oublié le prénom de la victime, mais...
Iliama.
Voilà, c'est ça, je crois. Donc, c'est tous les lundis à 19h que vous avez aussi des rendez-vous pour demander des comptes un peu au ministère de la Justice et à son ministre, et non pas à tous les autres magistrats qui croulent sur le travail, mais à lui, et pour demander aussi des vrais ministères de qui s'occupent des sujets des violences envers les femmes et les enfants, notamment. Enfin, tout ça, c'est tous les lundis, maintenant, à partir de 19h, et pour Paris, c'est devant le ministère de la Justice, qui s'y est au niveau de la place Vendôme. Place Vendôme, ça me rappelle quelque chose, en 1871.
Oui, il y a une espèce de d'objet très, très haut, très long, qui est tombé. Mais c'était pas à cause du vent, je crois.
Non, c'est pas à cause du vent qu'il est tombé. Hein. C'est un peu grâce aux révolutionnaires de la Commune de Paris,
voilà,
en 71.
Qui demandait des comptes aussi, comme là. Cette affaire lamentable aura permis une chose, c'est que les citoyens demandent des comptes directement au ministre et semblent déterminés à pas du tout lâcher l'affaire.
Non, même si Darmanin a l'air, lui, déterminé à se défausser, importe sur qui, ça change toutes les semaines. Oui. Il y a deux semaines, c'est sur les magistrats. La semaine dernière, c'était sur la police, maintenant, qui disait « Ah, mais c'est pas les magistrats, en fait, c'est les policiers qui ont mal fait leur job. Ah, » La semaine prochaine, ce sera peut-être sur les gendarmes. On verra bien, en fonction de la carte mystère qui sort de sa manche ou de son chapeau. Enfin bref, voilà, vous avez ça aussi, du coup, les soirs, maintenant, tous les lundis, à partir de 19h. Et pour Paris, c'est Place Vendôme, devant le ministère de la Justice. Est-ce qu'on a des petits trucs pour mardi? Je pense que pour mardi, il y a toujours la coordination contre la répression et pour l'entraide aussi au niveau juridique qui aura lieu à la Bourse du Travail de Paris à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. C'est la Bourse du Travail centrale, donc c'est celle qui est située 3 rue du Château d'Eau, juste au-dessus de la place de la République et de la station de métro du même nom. Et plus précisément à l'intérieur de ce bâtiment de la Bourse du Travail, ce sera dans la salle Francisco Ferrer, un compagnon anarchiste que nous connaissons bien ici, puisqu'il était espagnol. Et il avait été, du coup, dans mes souvenirs... mis en accusation et condamné à mort, et c'est au tout début du XXe siècle, je crois. Hein. C'est 1905, 1906, quelque chose comme ça.
Je crois que c'est 1909.
Ou 9, ok, pardon.
Pour des participations à des émeutes, alors qu'il avait démontré pendant son procès qu'au moment de ces émeutes,
il
n'était pas du tout dans cette région.
Ben oui. À l'époque, s'il pouvait assassiner des anarchistes légalement, le pouvoir le faisait.
Il faut dire que son idée, la mise en œuvre de son école rationaliste n'avait pas eu l'heure de plaire à l'Église, qui avait bien œuvré pour qu'on puisse l'éliminer, le faire condamner à mort.
Tout à fait. Donc une pensée pour lui. Mais en tout cas, voilà, c'est dans la salle Francisco Ferrer qu'aura lieu demain soir à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 la réunion de la coordination anti-répression pour, là aussi, s'entraider si vous subissez des problèmes, vous êtes fait arrêter en manifestation ou d'autres choses, vous avez besoin d'être aidé au niveau avocat et au niveau juridique, de façon très large, eh bien, n'hésitez pas, c'est tous les mardis à 18h30, et donc il arrive parfois qu'on ne cite pas le rendez-vous, mais sachez-le, c'est tous les mardis à 18h30 à la Bourse du Travail, et même si la salle change toutes les semaines, eh bien, vous pouvez retrouver à l'entrée de la Bourse du Travail un grand tableau qui répertorie toutes les réunions publiques ou privées, d'ailleurs, des différents syndicats ou autres associations collectives, qui s'organise là-bas pour savoir précisément dans quelle salle a lieu les réunions et permanences.
Alors,
quelque chose pour mardi peut-être.
Ben oui, encore des doublons, on a le choix. toujours ce mardi à 19h30, une autre coordination, la coordination 75 des sans-papiers, avec des membres du collectif des jeunes du parc de Belleville, vous propose une rencontre à la librairie Le Mont en l'air, 2 rue de la Mare, dans le 20e arrondissement. Ça sera pour eux l'occasion de nous parler de leur lutte, et ils présenteront 2 livres. Le premier qui s'appelle « L'heure est grave » et le second « Personne n'est illégal ». Ça sera donc mardi 19h30 à la librairie Le Mont en l'air, 2 rue de la Mare, dans le 20e arrondissement, métro Ménilmontant, ligne 2, ou Jourdain, ligne 11.
Oui, tout à fait, avec collectif des jeunes de banlieue et la CSP 75 aussi, l'intercollectif Île-de-France. En effet, c'est une réunion, certes, pour présenter les 2 livres, mais surtout pour parler des conditions de vie et aussi des luttes qu'il y a eu ces 2 dernières années. Notamment, on se souviendra de certaines occupations. Le parc de Belleville, originellement, d'où le nom du collectif des jeunes du parc de Belleville, mais aussi de la Maison des Métallos, rue Jean-Pierre Timbaud, mais aussi de la Gaîté Lyrique, dans le 3e arrondissement, pendant plusieurs mois. Ça avait donné lieu quand même à une occupation pour, même si cette occupation était compliquée, en tout cas pour montrer à quel point la situation était grave, comme le dit le livre paru aux éditions Terre de Feu, et que nous avons aussi à la librairie Publico, si jamais vous souhaitez venir le feuilleter ou l'acquérir. Je pense que c'est tout pour mardi.
Oui, moi j'ai rien d'autre.
On a par contre un rendez-vous à Publico mercredi.
Exactement. À l'invitation du groupe Louise Michel.
Tout à fait.
Une rencontre débat avec Amine Messal autour de son ouvrage Erreur sur la marchandise, critique libérale du libéralisme.
Paru aux éditions Rue de l'Échiquier.
Comment à l'héritage intellectuel des Lumières a pu se substituer le sacre de l'égoïsme rationnel avec une conception de la liberté réduite au seul champ économique, comment ce renversement absolu permet de taxer de liberticide toute critique du système capitaliste en dissimulant son pouvoir sur nos vies et les menaces réelles qu'il fait peser sur nos libertés fondamentales. Eh bien, c'est autour de ce sujet que nous pourrons discuter avec Amine Messal ce mercredi à 19h à la librairie Publico, toujours 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro République, Fille du Calvaire ou Oberkampf.
Tout à fait. C'est un bouquin, donc, comme je disais, sorti chez aux éditions Rue de l'Échiquier, dans leur, une de leurs collections Poche. Hein, donc c'est, voilà, c'est un bouquin à 12-13 euros. Voilà, il revient hein, dans ce bouquin aussi sur les contradictions bien évidentes de l'héritage libéral du 19e, 18e et 19e siècle. Mais en tout cas, c'est aussi une critique qui se voit dans l'objectif de montrer la perspective libertarienne, donc très autoritaire, qui pointe le bout de son nez dans cette vision ultra libéral et ultra autoritaire des monopoles sans limite par les grandes multinationales, etc. Et on a une compagnonne qui fait beaucoup d'émissions sur les multinationales, notamment Mariama sur Total ou sur d'autres process de paradis fiscaux, où elle est un peu experte là-dedans. En tout cas, voilà, ça sera une discussion aussi pour critiquer les systèmes libertariens qui sont en train d'advenir et qui, eux, sont quand même très en phase avec les idéologies les plus réactionnaires. Et c'est là, sans doute, où se situe le danger. Comme tu l'as dit, Ramon, hein, c'est mercredi
à 19h.
Mercredi à 19h à la librairie Publico. On va peut-être reprendre l'agenda un peu plus tard.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a sur le terrain des luttes cette semaine ?
Alors, on a plusieurs choses. Non, disons que il y a des petits billets d'humeur. De mauvaise humeur, j'avoue.
Évidemment.
De mauvaise humeur. Dans la rubrique qu'on pourrait appeler les temps sont de plus en plus mauvais.
Bah, eh bien, les temps mauvais.
Temps mauvais. Et mais la semaine dernière, le Parlement européen a approuvé définitivement ce qu'on appelle le règlement retour, qui va permettre d'expulser massivement les migrants avec des méthodes qui n'ont rien à envier à celles de la police ICE aux États-Unis. Notons que ce règlement n'a pu être voté qu'avec les voix des députés de droite et centre-droit qui se sont jointes à celles de l'extrême droite.
Évidemment.
Le tout sous leurs applaudissements et en scandant « Renvoyez-les ». Décidément, ça pue de plus en plus sur les bancs de tous les parlements. En France, ça nous promet pour 2027 une campagne électorale au ras du caniveau, si ce n'est même dans les égouts.
Oui, tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à l'élection en Colombie.
Ah oui ?
Puisque c'est un pro-Trump qui vient d'être élu nouveau président de la Colombie, après une espèce de parenthèse un peu plus à gauche, on va dire, en tout cas avec des angles arrondis, puisqu'il y avait eu quand même un certain nombre de signatures avec des membres des guérillas des forêts colombiennes.
Ouais.
et donc de ne pas miser que sur le tout répressif pendant les 4-5 ans de la dernière mandature en Colombie. Et bien là, c'est donc un président grand ami de Donald Trump, qui est donc élu à la tête de la Colombie. Je pense qu'on n'a pas fini d'en reparler et qu'il y ait un certain nombre d'exactions très répressives, des nouvelles constructions de camps, ce genre de choses.
C'est vrai que pour les États-Unis, quand même, l'Amérique latine est toujours leur champ d'action. Ils l'ont toujours considéré comme leur jardin privé, finalement. Quand ils parlent d'Amérique, ils englobent tout. Hein, ils ont une petite tendance à tout englober.
Évidemment.
D'ailleurs, que ça soit au nord et maintenant au sud et maintenant au nord, hein, le Canada n'a qu'à bien se tenir. C'est quand même quelque chose qui est récurrent, hein, aux États-Unis.
Oui, on n'aura pas fini d'en entendre parler, à mon avis, et on aura l'occasion de revenir sur la Colombie dans les mois qui viennent. Je vais faire un petite première actu qui date d'il y a quelques semaines dans ma rubrique environnement. J'ai pas encore trouvé le titre humoristique à la rubrique environnement, mais j'y viendrai à un moment donné.
Oui.
On va parler de la ministre de l'agriculture, l'environnement. Quel est son nom, Ramon? Est-ce que tu connais de nom la ministre actuelle?
Non, j'avoue
voilà, comme personne. Parce que, de toute façon, pendant un temps, ils ont changé tous les trois mois.
Mais je vois son visage. Je le vois.
C'est déjà beaucoup. Ne sois pas traumatisé pour autant. Mais voilà, son nom, c'est Annie Genevard. Et on va parler un peu de ses petits voyages d'Annie à la ferme. Avec la direction que prend les futures envies d'Annie, c'est-à-dire toujours plus de cochons à la ferme, toujours plus de poules à la ferme, toujours plus de poulets à la ferme, toujours plus d'hectares de maïs, mais donc de flotte pour arroser tout cela, et toujours autant, évidemment, de pesticides dans les pulvérisateurs. Et pour Annie Genevard, le bonheur n'est plus dans le pré. Avec son projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole, bienvenue dans la novlangue quand même, adopté en première lecture par les députés le 2 juin dernier, la ministre de l'Agriculture promet, au nom de la compétitivité, une France recouverte de poulaillers XXL, de porcheries géantes et de méga-bassines, bien sûr. Alors le 21 mai dernier, après avoir cassé la croûte à l'Institut de l'Espérance, c'était un cercle de réflexion réactionnaire lancé par Vincent Bolloré, hein, où elle s'est fait prendre par des caméras et des journalistes là-bas, elle qui aurait sans doute voulu y passer inaperçue. Eh bien, Genevard a foncé à l'Assemblée nationale pour défendre son projet de loi et dire tout le bien qu'elle pensait des méga-bassines. Je cite « Ne venez pas me dire qu'on manque d'eau ». Parce que nous voulons plus d'irrigation. Comprends qui veut, comprends qui peut. Parce que quand même, c'est un peu obscur comme phrase. Bref, elle a quand même poussé le bouchon en faisant biffer dans le texte la notion de sobriété dans la gestion de l'eau, alors que ce mot y apparaissait normalement à la commission pour le mettre en débat à l'Assemblée nationale. Eh bien, le texte qui a été mis en débat excite la sobriété. Fini. Maintenant, on va faire comme Trump le disait, le pétrole coule à flot. Ben là, c'est pareil. L'eau n'a qu'à couler à flot. Sauf que l'eau, il n'y en a plus beaucoup. Oui. Alors, pourquoi elle a fait biffer ce mot, hein? Eh bien, je cite encore, « Certains mots ont ulcéré le monde agricole. » Ah ben voilà. Voilà. C'est vrai que sobriété et monde agricole aujourd'hui, à part pour la petite paysannerie, ça ne fait pas bon ménage. Et tant pis si un an et demi plus tôt, son propre ministère demandait d'y aller mollo sur l'irrigation en recommandant, je cite, « une sobriété à l'hectare ». Mais bon, elle aussi, elle a l'air d'être une girouette, hein, et de changer un peu en fonction
du vent.
Rappelons quand même que dans nos campagnes, en deux décennies, soit en 20 ans, à cause du réchauffement climatique, la ressource en eau, l'été a baissé de 14%, soit a baissé de 33 milliards de mètres cubes en moins chaque année. C'est peut-être mieux en disant les chiffres comme ça plutôt que les pourcentages d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça ne risque pas de s'arranger vu que le Commissariat général au développement durable prévoit jusqu'à 40% de flotte disponible en moins d'ici à 2050. Mais qu'à cela ne tienne, avec la loi d'urgence agricole, Annie Genevard ouvre les vannes. Le délai pour contester le creusement d'une méga-bassine est raccourci de 10 à 6 mois. Exit aussi les réunions publiques obligatoires pour informer les riverains quand un projet voit le jour. Mieux encore, si pour préserver la nappe phréatique, la justice annule une demande de siphonnage, alors le préfet peut s'asseoir dessus pendant 2 ans. C'est beau quand même, hein ? Tout cela pour le plus grand profit de nos producteurs de maïs, dont la plante Bois sans soif couvre 38% des champs irrigués en France métropolitaine quand même. Même folie des grandeurs, côté bétail et basse-cour, comme je le disais au tout début. Alors que la France est le 2e pays européen en nombre d'élevages intensifs, avec 60% des animaux concentrés dans seulement 3% des exploitations, notre ministre de l'Agriculture veut faire encore grossir les porcheries et ajouter 6 millions de poules pondeuses d'ici à 2030. Eh bien, bucoliquement vôtre.
Hein. Oui, oui. Évidemment, on est dans... Alors, c'est toujours les mêmes arguments. Il faut être compétitif. Les Français ne le sont pas assez. Et donc, il faut uniquement des élevages géants, des poules à non plus... Des élevages de poules à non plus finir. Pour les porcs, c'est pareil. On sait qu'on va dans la mauvaise direction, mais c'est pas grave, on y va quand même.
Oui. Puis on y va en appuyant le pied au plancher. Hein,
oui. Ouais, j'ai un petit billet sur les USA, dans la catégorie qu'on pourrait appeler western. Hein. Puisqu'aux États-Unis, c'est actuellement pas une vague de chaleur qui fait le buzz, hein, mais une vague d'indignation.
Ah.
Parce que dans l'État, dans un supermarché de l'État du Mississippi, enfin sur le parking de ce supermarché, des policiers ont ouvert le feu sur un véhicule où se trouvaient 2 femmes et 1 bébé. Bilan. Un bébé de 1 an tué par balle. Comme d'habitude, c'est parce que les flics se sont sentis menacés qu'ils ont dégainé et tiré.
Menacés par un bébé de 18 mois, écoute.
Ah ben oui.
Ça fait peur, un bébé de 18 mois. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces flics ? Ben, ils avaient été appelés parce que les 2 femmes qui avaient le bébé étaient soupçonnées d'avoir dérobé un paquet de couches dans le magasin. Un paquet de couches, une vie. C'est vrai qu'on est au pays de hockey choral. Hein. On ne lésine pas avec la propriété privée.
Non. D'ailleurs, une balle de pistolet coûte bien moins cher que la vie d'un bébé.
Inutile de dire que la diffusion des images de cette affaire a soulevé une vague de colère dans la population. Et de manifestations, les manifestants dénonçant un crime raciste. Ah oui, parce que j'oubliais de vous préciser, les deux femmes et le bébé étaient de couleur noire. Simple détail sans doute, mais selon la formule consacrée, une enquête est en cours.
Ouais, bah c'est pareil, on aura l'occasion de revenir là-dessus aussi, je pense. Mais bon, c'est pas la première fois. Hein. Il n'y a pas que ICE qui est mouillé dans les crimes, policiers et notamment racistes aux États-Unis. On repensera à George Floyd il y a quelques années. C'était pas ICE, hein, c'était déjà la police normale, classique. Mais et puis il y en a eu des morts depuis les luttes sur les droits civiques. Hein,
on peut penser aussi. Soyons pas chauvins, on peut penser aussi à ce qu'on vous rappelait la semaine dernière, en France aussi, l'affaire Naël va repasser en jugement. Naël aussi, d'après la première version des policiers qui l'ont abattu, ces policiers se sentaient menacés par Naël, l'accusant même de leur foncer dessus. Bon, heureusement, il y a une vidéo qui a circulé. On voit que c'est pas exactement ça qui s'est passé.
Tout à fait, et ça nous permet de faire une petite pause musicale avec un titre qui s'intitule Universal Soldier. Je pense qu'il est bien trouvé pour le sujet, dont Ramon nous parlera un petit peu après de ce texte. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, et on se retrouve dans quelques minutes.
He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Dachau? Without him, Caesar would have stood alone. As a weapon of the war, and without him all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from him and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put an end.
Et on vient de s'écouter donc Universal Soldier de Buffy Sainte-Marie. Donc c'était une chanteuse et guitariste de folk dans les années 60, notamment les années 70 aussi. Et Ramon va nous parler un tout petit peu de ce titre.
Eh bien oui, c'est une chanson qui a été écrite, publiée en 1964, c'est-à-dire à une époque où dans la chanson anglo-saxonne, beaucoup de contestataires commençaient à faire leur apparition. C'est Buffy Sainte-Marie qui a écrit ce morceau, qui l'a chanté dans la version que vous venez d'écouter, mais il a été plutôt popularisé par un chanteur de folk anglais, en l'occurrence Donovan, dans ces années 60. Et ça dit en gros, on parle d'un homme, d'un soldat, qui peut mesurer 1m60 ou mesurer 1m90, qui se bat avec des missiles ou avec des lances, qui peut avoir 31 ans ou qui n'en a que 17. En fait, il est soldat depuis plus de 1000 ans. Il se bat pour le Canada Il se bat pour la France, il se bat pour les États-Unis, il se bat pour les Russes, il se bat pour le Japon, et il pense qu'on mettra fin à la guerre de cette manière. C'est le soldat universel, et c'est sur lui que retombe la faute. Ses ordres ne viennent pourtant plus de très loin. Ils viennent d'ici et là, et de toi et moi. Et mes frères, ne voyez-vous pas que ce n'est pas de cette manière que nous mettrons fin à la guerre ? Autrement dit, c'était un appel à prendre conscience de ce que nous faisons, de qui nous envoyons se faire battre et pour quelle raison. Ça a été toute une période assez faste pour ce qu'on appelait les protest songs.
La chanson contestataire.
La chanson contestataire, surtout aux États-Unis. Et donc, ce morceau avait été popularisé. En France, il a été plus connu pour sa version anglaise de Donovan. Et pour les amateurs de curiosité, il y a une version française chantée par Sheila. Je ne sais pas quelle est la brutille de parolier qui a fait le texte en français, mais ils ont transformé cette chanson, ce texte antimilitariste, en une espèce de guimauve, de chanson d'amour complètement hallucinante, hein, si vous écoutez ça. Mais on ne vous le fera pas écouter. Hein. Je ne vous ai pas amené la version française. Hein.
Enfin, n'hésitez pas à aller sur YouTube si vous souhaitez découvrir cette curiosité. Je suis sûr que c'est trouvable. Allez, j'ai quand même envie de vous faire une actu dans notre émission évidemment, mais dans notre rubrique Talonnette et Zonzon.
Ah oui.
Et
ah
j'ai
oui.
envie de reparler un peu de Rachida Dati et de ses bijoux à nouveau. Alors, je vous en ai déjà parlé lundi dernier, d'une certaine façon. Mais le souci, c'est que cette fois-ci, il y a eu quand même une audition à la PJ. Et donc, ce serait... je me suis dit que c'était pas mal aussi d'en parler. Surtout quand Dati, dans son rôle de Castafiore, jure devant ses grands dieux que ses bijoux ne sont que des babioles. Alors, c'est mardi 9 juin dernier que Rachida Dati avait rendez-vous avec Henri Proglio, son ex-compagnon. Et rendez-vous où ? Eh bien, rue du Bastion, à Paris, dans les locaux de la Brigade financière anticorruption. Au menu de cette audition, une confrontation entre les deux anciens tourtereaux dans le cadre de l'enquête sur les bijoux les bijoux de luxe de l'homme d'affaires, ex-patron d'EDF, a offert à la femme politique qu'est Rachida Dati à l'époque où ils étaient ensemble et que cette dernière n'a jamais déclaré à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Une vingtaine de parures, quand même, de colliers, de montres et de bracelets Cartier, Chopard, Bulgarie ou Pomelato, enfin des grandes entreprises de luxe.
Que de la marque, marque.
Que des babioles, hein, comme elle dit, n'est-ce pas ? Pour une valeur totale dépassant quand même les 400 000 euros et dont Libération, à l'époque, avait révélé l'existence il y a à peu près un an. Alors face à Proglio, qui avait déjà été entendu seul et qui a confirmé ses cadeaux, les poulets avaient hâte d'écouter Dati, qui depuis des mois répète la main sur le cœur « Je n'ai rien à régulariser ». Ah oui. Le numéro que la Castafiore a livré dans leurs locaux pendant 3h15 a dépassé toute leur espérance. Les flics lui ont d'abord mis sous le nez quelques photos des bijoux. Et la maire du 7e arrondissement de Paris est restée stoïque. Elle n'avait jamais vu ces objets, ils ne lui appartiennent pas, et elle n'a jamais détenu le moindre caillou valant plus de 10 000 euros. Ça tombe bien. L'obligation de déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique s'impose pour tout bien mobilier d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros. Comme ça tombe bien parfois les choses.
La seule fois où Dati a reconnu disposer d'un peu de joaillerie, c'était en 2014, au Parlement européen, où, dans sa déclaration de patrimoine, elle mentionnait « meubles, bijoux, 30 000 euros ». Modeste, hein, quand même, avec ça.
Oui.
Mais la confrontation dans les locaux de la financière a donné lieu à une seconde révélation, assez cocasse. Interrogée sur les bijoux qu'elle a portés régulièrement et ostensiblement des années durant, et dont la presse a publié moult clichés, et on ne parlera pas nécessairement que de Paris Match ici, l'ex-compagne de Proglio a juré que certains n'étaient plus en sa possession depuis sa rupture avec l'ex-PDG d'EDF en janvier 2024.
Le goujat, il les a repris, non ?
Oh là là ! Quant aux autres, Dati a déclaré qu'il y avait erreur. Elle ne porte généralement que des bijoux fantaisie ou des copies. Et ses parures de soirée ne seraient donc que de banales reproductions. Oh, Dati, quand même, la pauvrette. Franchement, on la plaindrait presque. Mais ce n'est pas fini. Les poulets n'ont pas résisté à la tentation d'évoquer devant l'ex-couple une série de clichés pris le 14 septembre 2023 lors de la perquisition d'un appartement que le bienfaiteur Proglio louait à l'époque pour sa bulle ciné. Un nid douillet de 225 mètres carrés quand même, situé rue Cassette dans le 6e arrondissement de Paris, autrement dit riche de chez riche hein, quand même, dans lequel les flics avaient découvert par hasard un petit coffre-fort bourré de bijoux. Cette autre enquête judiciaire, donc, ouverte quelques mois auparavant par le parquet national financier pour corruption et blanchiment, à la suite de l'identification de flux financiers atypiques de et vers la société d'Henri Proglio, selon le parquet, n'a pour l'heure rien donné. Mais des photos du contenu du coffre-fort prises par le PNF ont été versées dans la procédure sur les bijoux cachés de Dati. Là encore, pas de panique chez la Castafiore. Face à Proglio et au poulet, Dati a tout simplement expliqué, accrochez-vous, que les luxueuses breloques photographiées avaient probablement été achetées par son Henri, mais pour d'autres amis à lui. Et il les aurait planquées dans son coffre-fort à elle, bien sûr. Vous avez dit bizarre quand même, hein. Bon, Proglio est ressorti sidéré de ses retrouvailles avec son ex, dont il a jugé les déclarations absurdes, selon son entourage. Je pense que c'est le mot juste, hein. Le camp Dati a été joint par différents médias, mais est resté muet et n'a pas fait de déclaration. L'ancien prince charmant, aujourd'hui fâché avec son ancien amour, doit tout de même se marrer en se disant qu'elle ne pourra plus porter ses beaux cadeaux, vu son témoignage. Le lendemain de la confrontation, pour étayer quand même ça, l'ex-ministre était convié à un raout très chic de l'agence de communication Forward Global dans un resto bling-bling de l'Ouest parisien autour de vieux amis repris de justice, comme Sarkozy et Fillon, notamment. On retombe toujours sur eux, hein. Il n'y a pas de mystère. Et malgré le standing de la soirée, qui était quand même très élevé, Dati était d'une rare sobriété vestimentaire. Elle ne portait autour du cou qu'une modeste chaîne dorée. Ah, la fantaisie quand tu nous tiens.
Eh oui, ils continuent. Ils peuvent créer une amicale des anciens et futurs détenus pour des raisons diverses et variées.
C'est ça. Au lieu de RPR, on rappellera ça RPJ, repris de justice. Ah là 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 là. Est-ce qu'on reprendrait pas un peu d'agenda ?
Eh bien, on peut passer au jeudi, mais il va y avoir au
des
moins
triplons.
Un doublon, si c'est pas un triplon.
Un doublon.
Alors, je vais vous en donner un, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc, jeudi, à 17h...
Ah, le siège de Biocop.
Le collectif des salariés du magasin Biocop Les Fêtes appelle à un rassemblement devant le siège de Biocop dans le 15e arrondissement. C'est 28 à 32 boulevard de Grenelle, au métro Bir Hakeim, afin d'exiger d'être reçu par les dirigeants du groupe. Je reviendrai tout à l'heure plus en détail sur cette affaire.
Quoi ? On aura encore à parler de Biocop dans le terrain des luttes ?
Et oui, parce que c'est jamais fini. Hein. Ils sont terribles, ces salariés. Ils sont tenaces.
Ils sont tenace. Mais on en reparlera alors un peu après. On a un autre rendez-vous jeudi. C'est une rencontre avec le journal Le Chiffon, le journal de Paname et sa banlieue qui sort son nouveau numéro. Et pour cette sortie, eh bien, il a décidé de faire une petite réunion publique. Et cette fois-ci, puisque ça change de lieu à chaque fois, ce sera à la Maison du Zéro Déchet, un passage Emma Calvé dans le 12e arrondissement de Paris. Et très concrètement, c'est entre les stations de métro Federbe-Chaligny et ligne 8 et Reuilly-Diderot sur la ligne 1. Et donc, de quoi parle le nouveau numéro du Chiffon que nous avons à Publico, bien évidemment. Alors, je cite. Depuis près de deux décennies, le chantier d'extension du métro dit Grand Paris Express écrase toute remise en question sur son chemin, qu'elle vienne des habitants ou des plus hautes sphères de l'État. Avant tout tracé par un seul homme, Christian Blanc, et sans réelle concertation démocratique, le réseau est devenu le chantier le plus coûteux du vieux continent. Il n'est pas fortuit que les premières zones à défendre franciliennes se soient concentrées contre le Grand Paris Express en février 2021, notamment dans le territoire de Gonesse. En mai 2021, sur le territoire de Saclay aussi. Si elles n'ont pas duré, ces zones ouvraient quand même une voie. Car ce réseau de transport du Grand Paris cristallise assez fidèlement ce dont il faut sortir. Le despotisme de la vitesse, la domination de l'abstraction économique et la densité de la métropole. Voilà, donc il y aura du débat avec des membres de l'équipe du Chiffon. Ce sera à partir de 19h jusqu'à 22h. Voilà, il y aura des tables de presse et de quoi se sustenter aussi, vu que ça tombera quand même encore jeudi. Il fera quand même très très chaud sur l'Île-de-France, il me semble. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour jeudi ?
Eh bien, il y a un troisième rendez-vous. Alors, les auditeurs et auditrices feront leur choix, hein. Ça sera à 19h. Afin de célébrer les 90 ans du soulèvement contre le fascisme européen, l'association 24 août 1944 vous invite à la projection du film Indomptable, une histoire de femme libre. C'est un film de Juan Felipe de 2011 qui dure 62 minutes. Qui sera projeté en version originale, mais sous-titré français, rassurez-vous. Ce sera ainsi l'occasion de nous replonger dans la Révolution espagnole de 1936, et plus particulièrement sur le rôle qui ont tenu les femmes libertaires et leur organisation Femmes Libres. Bah, comme toujours, la projection sera suivie d'un débat animé cette fois-ci par Hélène Hernandez, animatrice de l'émission Femmes Libres sur cette même radio que vous écoutez. Ce sera elle qui animera ce débat. On vous donne donc rendez-vous jeudi à 19h au centre Paris Anime de la place des Fêtes, 2 à 4 rue des Lilas, 75 019 Paris. Entrée libre comme d'habitude.
Et si vous n'êtes pas du 19e, c'est desservi par la station Place des Fêtes sur la ligne 11 du métro. Eh bien, peut-être le moment de revenir sur Biocop.
Eh bien, on va revenir sur Biocop qui n'en finit pas de contester et de protester. Bon, on vous avait déjà parlé de leur grève qui avait duré 3 semaines en début d'année, enfin courant mars. Grève qui leur avait permis d'obtenir des augmentations de salaire, mais surtout une une mise en retrait de leur de la directrice de leur magasin. Dans un premier temps, tout semblait être respecté, mais un premier manager qui avait été désigné, avec qui il s'entendait bien, avait été dessaisi. Un nouveau manager a été nommé, et là ça se passe beaucoup moins bien, puisqu'il a le même comportement que la directrice qui a été mise en retrait. Donc les salariés de Biocoop avaient fait, pour protester, ils avaient fait un débrayage surprise un samedi. Ils avaient, sans avoir prévenu à l'avance, bon, ils avaient cessé le travail tout l'après-midi. Et ils ont tenu au courant leur comité de soutien, parce qu'un comité de soutien s'était créé avant la fin de leur première grève. Il faut croire qu'ils n'avaient pas tout à fait confiance dans la dans l'accord qui avait été signé. Il ne faut jamais avoir trop confiance. Donc, ils avaient fait appel à un comité de soutien qui était constitué de syndicalistes, d'organisations syndicales ou politiques, d'habitants du quartier, de clients du magasin. Et régulièrement, ils nous tiennent au courant de l'avancée de leur projet, et notamment de ce rassemblement qui est prévu jeudi prochain à 17h devant le siège de Biocoop dans le 15e arrondissement. Ce qui leur permettra, peut-être, enfin en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent, de se faire entendre et d'être reçus pour exposer leurs revendications, et en particulier celles qui tournent sur la gouvernance de leur magasin. Je ne vais pas vous le lire là, mais ils ont rédigé un communiqué que vous pouvez trouver sur le site du Monde Libertaire.
Oui, j'ai vu qu'il avait été mis.
Il a été mis en ligne.
Mis en ligne dessus. Donc c'est monde-libertaire.net pour retrouver ça.
Voilà.
En ligne.
Et donc.
Il y aura quelques éléments supplémentaires.
Voilà. Donc, eh bien, on vous invite, comme eux, à venir, à vous rassembler jeudi prochain, jeudi 25 juin. Devant le siège de Biocoop, 28 à 32 boulevard de Grenelle, dans le 15e arrondissement. C'est au métro Bir Hakeim. Et plus, ils sont déjà nombreux, mais on n'est jamais assez nombreux. Alors, si vous pouvez venir, il fera sans doute un peu chaud, mais n'hésitez pas.
Oui, ça vaut toujours le coup de soutenir... les amis, les compagnons, les collègues, les camarades. Parce que, quand même, dans l'histoire de Biocoop, ça fait depuis le mois de janvier. La grève qui avait débuté, c'est au mois de janvier, du coup, la grève de 3 semaines. On est au mois de juin, et c'est comme si pratiquement tout avait été remis au... Comme si rien ne s'était passé depuis, en fait.
Oui, pour la
grève...
Pour la gouvernance du magasin, on est revenu au point mort.
Alors, voilà, hein, tout ça, tout cet objectif de faire ce rassemblement. Et sans doute une journée de grève en même temps, peut-être, pour les personnes qui travaillent
ah oui,
dans
parce
ce Biocoop.
Ah oui, parce que ça ferme à 20h. Hein,
oui, oui. Donc,
alors, le rassemblement est à 17h, donc il y en a qui ne vont pas pouvoir assumer leur tâche.
Tout à fait. Donc quand même une journée de grève là. On espère qu'il y a des choses qui pourront essaimer dans les autres magasins de chez Biocoop aussi. Mais vu le turnover... c'est-à-dire le nombre tournant de salariés et de CDD, de contrats courts qu'il y a dans les Biocoop, bon, c'est toujours difficile de pouvoir tenter des collectifs de lutte avec les personnes qui y travaillent si le personnel change.
On l'avait déjà dit, mais dans ce magasin-là, celui de la Place des Fêtes, depuis 2020, 150 salariés ont défilé dans ce magasin. Il doit y avoir un problème quelque part.
Oui, ça, on a tout l'air. On va parler un peu, pour rejoindre le sujet militaire que tu disais tout à l'heure, eh bien, de... Malheureusement, hein, c'est pas... C'est toujours dans la rubrique temps mauvais. Maintenant qu'on a cette nouvelle rubrique. Et notamment sur... un certain vertige des très grands nombres concernant, eh bien, notamment les têtes nucléaires. Mais pas que, mais aussi les financements de la guerre. Parce que l'an dernier, le monde entier a dépensé 2887 milliards pour préparer la guerre. La France, seulement 68. Évidemment, les petits joueurs.
Les petits
bras. Et nous sommes à la 9e place mondiale, quand même, sur 200 États, quant au financement de nos armées. Nous y consacrons 2% du PIB. PIB endetté, comme on le sait aussi. L'attaque de Poutine, par exemple, contre l'Ukraine et le lâchage de Trump ont convaincu l'Europe qu'il fallait se réarmer. Et elle s'y met, manifestement. Comme les autres pays de l'OTAN, la France vise 5% du PIB à financer pour la guerre. La Pologne, elle, en est déjà à 4,5%. L'armée française dispose concrètement de 225 rafales, 15 frégates de premier rang, 6 sous-marins nucléaires et 3 porte-hélicoptères, en plus d'un porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle, comme on le sait. Mais aussi 200 chars Leclerc et 67 hélicoptères d'attaque Tigre. Macron a récemment fait voter une rectification de la loi de programmation militaire 2024-2030 qui offre 36 milliards de plus aux armées. On n'avait pas fait pareil depuis l'effort de 1951-1953 lors de la guerre d'Indochine. Et le cœur de notre force de frappe ? Eh bien, nos 6 sous-marins nucléaires, évidemment. Chacun d'eux promène au fond des mers 16 missiles balistiques contenant chacun 6 têtes nucléaires d'une portée de 10 000 km. Comme le dit un stratège français, je cite, « Nos sous-marins sont capables de tuer 50 millions de personnes en une demi-heure. Nous pensons que cela suffit à dissuader quelque adversaire que ce soit. » Ça jette un froid, hein, quand même, hein, oui, avec les chiffres bruts comme ça. Mais encore faut-il que l'adversaire soit un minimum rationnel. Et avant que Poutine attaque l'Ukraine, les stratèges militaires n'y croyaient pas. Ce serait, disait-il, une décision irrationnelle que Poutine attaque l'Ukraine. Bah, ça ne l'a pas empêché, hein, voilà.
Il n'était peut-être pas rationnel.
Et par la suite, il a agité la menace nucléaire, évidemment. On l'a vu sur toutes nos télés ou vidéos en ligne. Mais quel expert y croit, du coup? Et après 4 ans de boucherie en Ukraine, on rappelle que le premier jour de guerre, c'était le 24 février 2022. Quel bilan a tiré de ça? Eh bien, côté russe, entre 275 et 325 000 morts. Côté ukrainien, entre 100 000 et 140 000 morts. Si on y ajoute les blessés et les disparus, on passe à 2 millions de victimes. La boucherie, quand même, en Ukraine, a déjà duré plus longtemps que celle de 14-18. Mmh. Et elle n'en finit pas. Dans le monde, 9 États se sont dotés d'armes nucléaires. En tout, 12 000 têtes, dont au moins 2 000 sont en état d'alerte opérationnelle maximale, selon l'expression consacrée. Par ordre chronologique, États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Israël, Inde, Pakistan et Corée du Nord. Et dans le lot, 3 pays seulement font partie de l'OTAN. Le traité New Start, par lequel les USA et la Russie plafonnaient leur arsenal nucléaire, a expiré le 5 février 2026. Il n'a pas été renouvelé. La course mondiale au nucléaire est donc repartie. Dans son discours du 2 mars dernier sur la dissuasion avancée, c'est l'expression qu'a dit Macron, il a ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires en France. Nous en avons aujourd'hui un peu plus de 300. Chacune d'elles peut détruire autant que 7 à 20 bombes d'Hiroshima. Et Macron nous dit « Nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal. » Oui, bah, du moment qu'on va de l'avant, c'est sûr qu'il n'y a plus besoin de communiquer. Voilà, c'est juste un complément à faire sur le sujet militaire que tu as cité tout à l'heure.
Oui, c'est...
Parce que il y a quand même des choses assez préoccupantes qui se passent actuellement sur différents sujets.
Et qui vont nous coûter ici. Et qui vont nous coûter cher.
Et qui vont nous coûter cher, ouais. Mais qui vont coûter cher à nous, certainement pas à Bernard Arnault ou à Bolloré ou à François Pinault, sans compter...
Pourtant, c'est des patriotes. Hein.
Ah, c'est des très grands patriotes, mais c'est des très grands patriotes simplement pour les élections, souvent. Rarement pour financer des choses qui iraient dans une amélioration conjointe des conditions de vie des gens. Et dans conditions de vie, évidemment que j'inclus le logement, la nourriture, se chauffer, se vêtir, etc. Hein. Mais là, voilà, c'était un complément que je voulais faire sur des chiffres un peu plus concrets sur où va la question de la dissuasion nucléaire, puisqu'il faut l'appeler comme ça aujourd'hui. Et malheureusement, elle va en augmentant. Et potentiellement, on peut se poser légitimement la question de l'avenir face à tout ça.
Bah, tout à l'heure, je ne sais pas si on aura le temps, mais on pourra peut-être passer une chanson, un texte de Prévert, qui s'appelle « Chanson dans le sang ». Ça finira de nous mettre dans l'ambiance. Mais bon, si on n'a pas le temps, on le garde sous le coude.
Si, mais je pense qu'on va avoir le temps de la passer. D'ailleurs, je pense qu'on va faire les rendez-vous du vendredi.
Ouais.
Et puis une petite pause musicale pour glisser tranquillement vers 14h30.
Alors, moi j'ai un rendez-vous vendredi. Un long rendez-vous de 22h à minuit. Si vous avez raté la projection du film Les Pas du Monde, dimanche dernier à la librairie Publico, pas de panique. Dans le cadre de la fête des Thermopyles, il y a une session de rattrapage vendredi avec cinéma en plein air au jardin des Thermopyles dans le 14e arrondissement de Paris. Le film sera projeté. Le film sera projeté à la tombée de la nuit vers 22h, en plein air donc, et en présence de la réalisatrice Hiro Siafiakli et de sa collaboratrice Bonita Papastati. Rappelons que ce film traite le mouvement des Gilets jaunes comme une marche, une expérience sensible d'une vie qui se transforme. Pour assister à la projection, vous pourrez vous rendre au Jardin des Thermopyles qui ouvrira à partir de 19h avec buvette et restauration légère. Il y aura également des projections de courts-métrages pour enfants et un concert de Brunel et Léon, musique du monde. Petit détail, entrée libre et participation financière à la fête également. L'adresse maintenant, eh bien c'est au Jardin des Thermopyles, 4 rue des Thermopyles, 75014 Paris, c'est au métro, c'est à la station de métro Pernetti, ligne 13.
Merci Ramon. Et puis, écoute, on va passer la chanson que tu viens de dire. Comme ça, ça nous permettra peut-être de faire un petit débriefing dessus.
Et, une chanson, un texte.
Et d'étayer nos propos.
Un texte dit par Pierre Brasseur.
Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Est-ce la terre qu'il boit et qui se saoule? Drôle de soulographie, alors. Si sage, si monotone. Non, la terre ne se saoule pas. La terre ne tourne pas de travers. Elle pousse régulièrement sa petite voiture ses quatre saisons. la pluie, la neige, la grêle, le beau temps. Jamais elle n'est ivre. C'est à peine s'il se permet de temps en temps un malheureux petit volcan. Elle tourne, la terre. Elle tourne avec ses arbres, ses jardins, ses maisons. Elle tourne avec ses grandes flaques de sang. Et toutes les choses vivantes tournent avec elle et saignent. Et elle s'en fout, la terre. Elle tourne. Et toutes les choses vivantes se mettent à hurler. Mais elle s'en fout. Elle tourne. Elle n'arrête pas de tourner. Le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu? Le sang des meurtres, le sang des guerres, le sang de la misère, et le sang des hommes torturés dans les prisons, le sang des enfants torturés tranquillement par leur papa et leur maman, et le sang des hommes qui saignent de la tête dans les cabanons, et le sang du couvreur quand le couvreur glisse et tombe du toit, et le sang qui arrive et qui coule à grands flots avec le nouveau-né, avec l'enfant nouveau, la mère qui crie, l'enfant pleure, le sang coule, et la terre tourne. La terre n'arrête pas de tourner, le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu? Le sang des matraqués, des humiliés, des suicidés, des fusillés, des condamnés, et le sang de ceux qui meurent comme ça, par accident. Dans la rue passe un vivant, avec tout son sang dedans. Soudain le voilà mort, et tout son sang est dehors. Et les autres vivants font disparaître le sang. Ils emportent le corps, mais il est têtu, le sang. Et là où était le mort, beaucoup plus tard, tout noir, un peu de sang s'étale encore, sang coagulé, rouille de la vie, rouille des corps, sang caillé, comme le lait quand il tourne comme la terre qui tourne, avec son lait, avec ses vaches, avec ses vivants, avec ses morts. La terre qui tourne avec ses arbres, ses vivants, ses maisons. La terre qui tourne avec les mariages, les enterrements, les coquillages, les régiments. La terre qui tourne et qui tourne et qui tourne avec ses grands ruisseaux de sang.
Voilà, c'était un texte de Jacques Prévert, interprété par Pierre Brasseur. Mais
c'est un texte qui a dû être publié au début des années 1930. Alors pour ceux qui l'ignorent, mais je sais que vous ne l'ignorez pas, il se trouve que Jacques Prévert était un poète, tout le monde le sait, mais libertaire. Il y en a qui ont tendance soit à ne pas le savoir, soit à vouloir occulter cet aspect du personnage. Mais toute son œuvre est vraiment anti-militariste. C'était vraiment un libertaire. Et on lui doit cette fameuse citation du poème de Barbara. Quelle connerie, la guerre.
Tout à fait, tout à fait. Quelle connerie, la guerre. Écoute, il est 2h15. On va passer au dernier rendez-vous du week-end. Et notamment avec une nouvelle braderie pour la librairie. Ce week-end, c'est la braderie de Publico de 11h à 19h samedi 27 et de 11h à 19h dimanche 28 avec clôture de sa saison d'animation, même s'il y aura quelques animations encore la semaine d'après, Sur deux jours, donc, une grande braderie avec bah voilà, de la littérature, des CD, des DVD. Il y aura tout ça qui seront présentés pour vous à petit prix. À petit prix pour bah voilà, continuer à faire circuler les idées, les romans, la littérature en général, avec beaucoup, beaucoup de livres d'occasion sur ces deux jours. Donc, je rappelle, samedi 27 de 11h à 19h et dimanche 28 de 11h à 19h aussi. Et en théorie, il y aura aussi, enfin non, pas en théorie d'ailleurs, ce sera accompagné pour samedi 27 d'un petit concert d'un ami guitariste d'ailleurs.
Oui, un ami guitariste qui s'appelle Maximilien Chazan et qui nous fera partager sa passion pour le répertoire classique en interprétant des pièces à la guitare, en interprétant des pièces de Rodrigo, Villa-Lobos, Granados, Bellini et d'autres encore. À ne pas rater donc, une façon agréable d'oublier le temps d'une fin de journée, le bruit et la fureur du monde qui nous entoure.
Tout à fait, c'est un très très bon guitariste, Maximilien. Il est professionnellement au pôle d'enseignement de Bretagne, Pays de la Loire, au niveau du conservatoire. Et donc il s'est spécialisé, entre autres et notamment, dans la guitare classique, et donc dans les pièces classiques, et notamment des pièces qu'on a plutôt rarement l'habitude d'entendre, puisque ce sont des pièces plutôt fin 19e, et début 20e, et c'est rare qu'on écoute souvent des pièces, on est plus habitué au 18e, 17e, ou à des choses beaucoup plus contemporaines. Mais c'est vrai que cette période-là, fin 19e, début 20e, notamment sur la guitare classique, c'est beaucoup plus rare. Et eh bien, si, bah, voilà, pour venir le découvrir, en tout cas, ou découvrir son répertoire, et ses interprétations à la guitare classique, eh bien, ce sera samedi 27 à 17h.
À 17h,
à
oui.
Publico. Alors, je ne sais pas si ce sera en plein air ou en intérieur, mais en tout cas, peut-être en intérieur, d'ailleurs, pour la question du son. En tout cas, ce sera donc voilà, samedi 27 à 17h pour ce concert de guitare classique de notre compagnon Maximilien Chazan.
Bon, il y a un doublon avec une autre librairie, la librairie Quilombo. Il se trouve que nous arrivons aux 90 ans de la commémoration de la guerre d'Espagne, et la librairie Quilombo propose samedi de 11h à 22h de nombreuses tables rondes animées par des gens qu'on connaît bien, des camarades. Il y aura Freddy Gomez, Myrtille des Géminologues, Clément Magnier, Frank Mintz, Pierre Salmon et beaucoup d'autres. Et eux termineront la journée par un concert des Brigades Louise Michel qui interpréteront des chants révolutionnaires de la guerre d'Espagne. Donc, je pense que vous pouvez, si vous calculez bien, vu l'amplitude horaire, vous pouvez et aller faire un saut à la librairie Quilombo et revenir vite fait à la librairie Publico.
C'est possible.
Braderie.
Ou dans l'autre sens, parce que le concert à Quilombo est à 21h.
Oui.
Donc,
oui.
Voilà, Publico sera fermé à 19h. Vous avez bien le temps de faire, de passer aussi chez nos compagnons de Quilombo, par exemple. Donc, il n'y a pas de.
Je vous rappelle juste l'adresse de la librairie Quilombo. C'est 23 rue Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris, métro rue des Boulets, sur la ligne 9.
Merci Ramon. Pour dimanche, quelque chose, mais
ben oui,
aussi, alors,
on est toujours,
voyons voir.
On est toujours dans la commémoration des 90 ans de la Révolution espagnole, mais là on va passer le périph', hein. Ça aura lieu à Limay.
On va passer les deux périphes, d'ailleurs.
dans les deux périphéries, dans les Yvelines.
Même la 86, il faut la passer.
Où la journée, donc à Limay, où la journée commencera avec l'inauguration de la place Mujeres Libres, Femmes Libres. Tout au long de la journée se succéderont des tables rondes, la projection du film « Hommage à la Catalogne » de Frédéric Goldbronn, des débats, des chants de lutte, sans oublier évidemment restauration et buvette. De quoi tenir toute cette journée organisée conjointement par la librairie La Nouvelle Réserve, également par la CNT, AFA 78, la LDH Sud, Solidaire 78 et l'Université Populaire du Mantois. Où est-ce que ça se passera ? Eh bien, à la librairie La Nouvelle Réserve, 5 rue du Maréchal Foch, 78 520, à Limay.
Exactement, à Limay. Et c'est... Comment ? Le, si vous habitez pas trop loin, vous pouvez toujours y aller en voiture. Sinon, en train, eh bien, il faudra descendre à la station Mantes Station. Et puis, il y aura sans doute un bus qui va à Limay à partir de Mantes Station. Mantes Station, c'est sur la ligne J du Transilien, dans les Yvelines, donc dans le Grand Ouest, près de la toujours en Île-de-France, mais près de la Normandie. Dans cette partie-là de la région Île-de-France, donc ce dimanche aussi consacré aux 90 ans de la Révolution espagnole. À Publico, depuis l'automne dernier, on fait quelques animations, parfois, qui ont pour thème, qui s'inscrivent dans les 90 ans, mais qui ont pour thème, je crois que Ramon, il y en avait deux que vous aviez fait sur ce thème-là.
Oui.
Déjà le hommage à la Catalogne, d'une
oui,
part.
Déjà. Et je crois,
sur Salvador Seguí.
Je crois, oui, c'est ça. Et je crois savoir que le Monde Libertaire, le comité de rédaction du Monde Libertaire, nous prépare un numéro consacré à la Révolution espagnole qui paraîtra au mois de septembre.
Septembre, hein, je crois. Ouais. Ouais, c'est pas le numéro d'été, ce sera le numéro
non,
de,
ça sera en
de
septembre.
La rentrée sur cette thématique.
Ouais.
14h21, allez, juste le temps de vous faire une dernière actualité dans ma rubrique environnement. Notamment, on va parler un peu des émulsifiants avant de rendre l'antenne en musique. Connaissez-vous le sorbate de potassium ?
Non, tu ne connais pas. C'est un truc que j'en mange pas, moi.
T'en manges pas ? Eh bien, figure-toi qu'à mon avis, t'en manges quand même.
Ah mince, ils nous disent rien.
Et non. E202, de son petit nom. C'est un anti-moisissure qui, du coup, allonge au maximum la durée de vie des biscuits, par exemple. Donc, on le retrouve souvent dans les biscuits industriels, pas artisanaux. Un ingrédient qui est assez épatant, mais qui est désormais suspecté fortement d'augmenter le risque de cancer et de diabète de type 2. C'est ce que démontrent deux études parues très récemment et soigneusement mises sous le torchon par l'agroalimentaire, évidemment, comme à chaque fois. En janvier dernier, des chercheurs de l'INRAE et de l'INSERM ont levé le voile sur les travaux qu'ils ont menés pendant 14 ans auprès de 100 000 Français. En croisant l'état de santé de ces derniers et le contenu de leur assiette, ces cadors de l'épidémiologie nutritionnelle ont découvert qu'ingurgiter régulièrement de l'E202 augmentait de 14% le risque de cancer et de 40% la survenue d'un diabète sucré. Dur à avaler, vu que l'un des gâteaux industriels préférés des enfants est justement fourré à l'E202. En plus du sorbate de potassium, le napolitain de la célèbre marque Lu, racheté par le géant américain snacking Mondelez, qui est lui numéro 1 du biscuit en France, aligne en effet pas moins de 24 ingrédients, dont 14 marqueurs de malbouffe. N'en jetez plus. Voilà qui donne envie d'ouvrir la boîte à goûter, n'est-ce pas ? Et ça tombe bien, dans son dernier hors-série, 60 millions de consommateurs, tant qu'il existe encore, a passé au crible 82 gâteaux, biscuits, brioches et autres madeleines. un vrai musée des horreurs nutritionnelles puisque 91,3% d'entre eux sont ultra transformés. La barre de céréales Lion, par exemple, au caramel et au chocolat de Nestlé, décroche la timbale avec 25 ingrédients. Il n'y a pas que du caramel et du chocolat dans Lyon. Hein. Voilà, ça fait que deux ingrédients, ça. Il y a d'autres choses.
Encore une désillusion.
Mais oui, mais oui. Tu ne pourras plus rugir en mangeant tes barres de céréales. Parmi les cochonneries les plus fréquemment trouvées au rayon goûter, une ribambelle d'émulsifiants, dont E475, mais aussi E471, qui, à haute dose, désingue le microbiote intestinal, ou encore l'E450, un agent de texture qui détraque les reins. Le tout souvent touillé avec de l'huile de palme nappée de sirop de glucose. Ouh. Rappelons qu'en France, à cause notamment de la malbouffe, un enfant ou ado sur 5 est quand même en surpoids. Malgré tout ça, dans son plan anti-obésité lancé en janvier avec roulement de tambour par le ministre de la Santé, qui ne pipe mot sur les publicités alimentaires ciblant les enfants, alors que 90% d'entre elles, dixit un rapport du Sénat, font la promo de produits trop gras, trop sucrés, trop salés, trop chimiqués. Mais motus et bouche cousue. Aussi sur l'armée d'influenceurs grassement payés sur les réseaux type Instagram, TikTok, etc. Payés pour faire la retape de la malbouffe sur les réseaux sociaux. Bon. Personnellement, ça m'a quand même dégoûté un peu de manger là maintenant tout de suite. J'espère que vous aussi. Mais on aura l'occasion, comme souvent, de reparler dans notre rubrique environnement de tous ces désagréments nutritionnels et agricoles. Je pense qu'on a fini là pour cette semaine.
Eh bien, je crois que oui, on a fini pour cette semaine. On vous rappelle encore une fois, on vous donne rendez-vous. Personnellement, j'y serai d'ailleurs, jeudi à 17h devant le siège de Biocoop dans le 15e arrondissement, 28 à 32 boulevard de Grenelle. C'est au métro Bir Hakeim. Eh bien, nous y serons tous avec les salariés, le collectif des salariés de Biocoop Les Fêtes. Et je vous invite à nous rejoindre là-bas, sur place, donc jeudi à 17h. À bientôt.
Et comme lundi prochain, a priori, il n'y aura pas d'émission de C'est là que ça se passe, je peux déjà vous dire qu'il y aura trois animations de prévues à Publico, autant vous les donner tout de suite. Mercredi 1er juillet à 19h, une rencontre avec Louis Tassin autour de son ouvrage « Comme on les enferme ». Études dans les centres de rétention de Paris à Lampedusa, ça serait mercredi 1er juillet à 19h à Publico. Il y aura aussi samedi 4 juillet à 16h une rencontre débat avec une partie des auteurs d'un ouvrage qui s'intitule La guerre d'Espagne 36-39, la démocratie assassinée, ça c'est samedi 4 à 16h. Et il y aura enfin dimanche 5 juillet à 16h aussi une rencontre débat avec Romaric Godin, auteur notamment de trois ouvrages, Le problème à trois corps sur la gestion autoritaire du désastre et les moyens de lui faire face, sorti à la découverte, La guerre sociale en France aux sources économiques de la démocratie autoritaire aux éditions La Découverte également, mais aussi Penser l'émancipation autrement aux éditions Smolny, ça ce sera dimanche 5 juillet à 16h. Et donc en théorie, on vous souhaite une bonne journée, mais on vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de C'est là que ça se passe.
Shangwe mshosheke